Bienvenue pour vous qui nous rejoignez sur les antennes de BFM Nice Côte d'Azur. On a analysé ensemble le derby entre Nice et Monaco qui a terminé sur le score de parité 0-0. Il nous reste 30 minutes pour évoquer ensemble les matchs de Coupe de France des deux clubs. On commence avec le premier focus de la soirée. C'est parti. Et ce Nice-Montpellier à haute intensité émotionnelle. 3-2 sur le fil en 8e de finale de Coupe de France. C'était ce mercredi en plateau. John et Nico sont toujours en place. Vous nous avez accompagnés pour le débrief du derby azurien. Et puis un nouveau venu dans Copéglon qui nous rejoint, c'est Sébastien Réglé, journaliste à France Bleu Azur. Comment ça, Sébastien? Bienvenue.
Et bonjour Samuel, bonjour à tous. Bah, ça va très bien. J'ai un peu de voix encore vu le match d'hier, ça va.
Ouais, c'est vrai, vous commentiez la rencontre, alors celle d'hier entre Nice et Monaco, oui. Mais aussi... Et surtout, et oui. Celle entre Nice et Montpellier. Racontez-nous un petit peu l'atmosphère qu'il y avait à l'Allianz Riviera. On a l'impression que le stade s'est embrasé vers la fin de la rencontre.
Alors déjà au départ, il n'y avait pas énormément de monde. Mmh. On n'avait pas encore pris forcément la mesure. Et on ne savait peut-être pas, est-ce que c'est un match important? C'était le championnat avant tout, la Coupe de France, on ne savait pas trop à l'époque. Même si moi, je partais du principe que la Coupe, on devait la jouer à fond. Ça, ouais. C'est clair, vu la saison. Le début de saison de match compliqué, on ne va pas se mentir pour l'OGC Nice, avec un effectif très remodelé, pas mal de jeunes, beaucoup de joueurs, également au démarrage qui étaient très jeunes. Et donc ça démarrait très mal. De souvenir ça. Très rapidement, Montpellier ouvre la marque et puis à la pause, Nice n'a pas eu tant d'occasions que ça. La deuxième période, on fait des changements très rapidement. Claude Puel fait des changements très rapidement, mais il y a quand même le deuxième but de Montpellier. À 20 minutes de la fin du match, Montpellier mène 2-0. Donc là, c'est compliqué. Et puis, il y a eu ces nouveaux entrants, parce qu'il y en a eu à la pause et puis il y en a eu à 20 minutes de la fin du match. Et ça a fait la différence, notamment Kyle Boudache, un jeune joueur niçois qui a marqué. Et là, effectivement, l'ambiance a commencé à monter crescendo. On a commencé à y croire au 2-1. Il y a eu le 2-2 et puis l'explosion à la 97e minute. Sofiane Diop qui marque sur corner, récupération du ballon, l'enroulé. Et là, effectivement, c'était complètement fou, car inattendu, quand on voit les dernières performances de Nice, on n'est pas forcément capable toujours de revenir. Là, c'était fou.
Absolument.
On revit le match. Hein.
Et vous l'avez cité, Sébastien, cette composition d'équipe aussi, ouais. Qu'on n'a pas vraiment compris. On va la voir tout de suite. Une équipe, B, voire C, pourquoi pas, de l'OGC Nice. Tous les défenseurs centraux de métier étaient alignés sur la pelouse, dont des étonnants Opong et Mansunga latéraux. Là, Salis Abdoul Samed, encore très décevant au milieu. Niedi trio. Janssen Bernardo louché derrière le très jeune Zoumana Diallo, qu'on avait vu buteur il y a deux tours de ça, contre Saint-Etienne. Au total, 7 joueurs de moins de 22 ans sur la feuille de match. Nico, on s'est échangé des messages à la fin de cette première mi-temps. On était sur le point d'assister au premier gros couac de Claude Puel sur le bord de l'OGC Nice.
Ah ouais, pour moi, tu peux faire tourner 4-5 joueurs, mais là, remodeler tout le 11, c'est même pas leur rendre service, je trouve. Alors après, il maîtrise sûrement mieux le sujet que nous, mais je me suis dit, il les envoie un peu au feu, tous ces jeunes, parce que la Coupe de France était un objectif important pour nous, en tout cas en tant que supporters, après cette saison ratée en Europe et en championnat. Et cette première période et même cette première heure de jeu, elle a complètement donné tort à Claude Puel. Et après, on a basculé dans l'irrationnel. Et au final, je pense que ça nous fait beaucoup de bien. Parce que, en occultant le contexte, nous, en tant que supporters, je pense qu'on avait besoin de vivre une soirée comme ça. Moi, au stade, j'ai exulté, j'ai ressenti des émotions que ça faisait très longtemps que je n'avais pas ressenties. Et puis, je pense que c'est une victoire qui a fédéré tout un groupe.
Moi, j'ai toujours pas compris la tactique là de Claude Puel de démarrer comme ça. On lui a demandé après le match, mais c'est pas clair. Moi, je pensais que dès le démarrage d'un match comme celui-ci, si important, Nice devait attaquer fort avec des joueurs normalement titulaires. Sofiane Diop qui marque à la fin. On aurait pu penser à Morgan Sanson dès le démarrage de cette rencontre. Et c'est vrai qu'on démarre avec des joueurs. On l'a vu devant, et puis on a vu également Abdoul Samed au milieu de terrain. Ça allait pas. Enfin. C'était très étonnant.
Surtout, et quand vous êtes destiné à jouer le ventre mou, finalement, peut-être, de cette ligne. Ouais, encore plus. On va écouter d'ailleurs Jonathan Clauss, qui a été finalement assez imperturbable, même mené 2-0. Écoutez, nous a raconté l'état d'esprit de ses coéquipiers.
J'ai pas eu l'impression qu'on a douté, au contraire. Même après le deuxième but, j'ai vu personne d'abattu. Au contraire, j'ai essayé de tirer aussi tout le monde et je voyais que tout le monde était réceptif. Donc, non, j'ai simplement dit qu'il fallait qu'on continue de jouer et à force de jeu, passer dans les pieds, éviter de trop balancer, etc., bien combiner, ça allait passer et c'est ce qui s'est passé.
Les amis, on se souvient d'une action aussi de ce match, c'est le retour de Charles Van Hoot sur Alexandre Mendy à 3-1. Est-ce qu'elle n'est pas symbolique aussi, cette action de ce nouvel état d'esprit de l'OGC Nice?
J'ai l'impression que c'est un peu ça, effectivement, avec Claude Puel qui dit qu'il ne lâche pas ses joueurs. Et c'est ce que disait aussi Morgan Sanson il y a quelques jours, le milieu de terrain. Il disait qu'il nous a insufflé quelque chose de nouveau quand même derrière. Voilà, il est toujours derrière ses joueurs, ce Claude Puel. Et Charles Van Hoot en est l'illustration. On l'a vu dans une vidéo du club où il est filmé dans le vestiaire après le match. Il est encore fatigué, il a tout donné quoi. Et
moi j'étais pas très dithyrambique sur Van Hoot depuis le début de saison. Je me disais que pour moi il manquait encore un petit peu de quoi justifier cette recrue, qui c'était loin d'être la pire. Mais j'ai l'impression que justement le coaching de coach Puel, le mental, cette mentalité un peu de guerrier, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et on commence à avoir des résultats, notamment ce que vous avez cité juste avant, Samuel.
Allez, on ouvre le dossier Kyle Boudache. Nico, qui fait partie du club des 53, puisque 53, c'est notre chiffre aussi du soir. C'est le nombre de joueurs de moins de 20 ans lancés par Claude Puel en Ligue 1 depuis 1999, vous le voyez s'afficher. Le premier dans ce domaine, loin devant Alain Casanova, Antoine Comboiré, on a aussi des Christophe Galtier ou des Fred Antonetti. On a envie de dire, Nico, attention, gros talent que ce Kyle Boudache. On avait envie d'en voir plus après ce que vous avez montré face à Brest et on a été gâtés.
Ouais, après, je pense qu'il ne faut pas s'enflammer. C'est moi qui dis ça. Je pense qu'aujourd'hui.
Vous l'avez bien vendu en plus.
Ah ouais, mais surtout, je trouve la gestion de Claude Puel extrêmement bonne dans le sens où aujourd'hui, est-ce qu'il a 80 minutes dans les jambes pour mettre le feu à une défense? Je ne suis pas sûr.
Non, pas du tout.
En tout cas, le garder, en revanche, le garder sur le banc sur 30-40 minutes, ça peut être très très pertinent parce qu'il a cette capacité à provoquer sans cesse. On l'a vu encore contre Monaco. Hein.
Oui, des
quand il prend le ballon, on sent qu'il se passe quelque chose de différent. Après, évidemment que c'est un talent exceptionnel.
Et c'est un talent brut, c'est clair. Après, pour en avoir parlé en conf de presse, pas moi particulièrement, mais même mes confrères avec Claude Puel, pour lui, c'est vraiment ça, talent brut. Mais attention, il a encore quand même beaucoup de travail, notamment dans l'intelligence de jeu pour passer le ballon au bon moment. Et c'est ça qui manque encore.
C'est une bonne décision.
Ouais, un peu d'intelligence de jeu. Contrairement à Gabin Bernardo, il est beaucoup plus positif.
Pragmatique,
encore,
on dirait. Ouais. Mais c'est vrai qu'avec le profil qu'on a, on est l'OGC Nice, on n'a pas 15 000 schémas offensifs différents. Le fait de pouvoir compter sur cette option sur 45 minutes, ça peut faire
de frôler un petit peu. Hein. Les amis, on va aussi se projeter sur ce quart de finale face à Lorient. Ce sera mercredi 4 mars prochain à 20h30. Tirage abordable, Sébastien, sur le papier. Mais attention quand même au Merlu qui n'avait plus perdu depuis le 2 novembre. La série de 12 matchs sans défaite s'est arrêtée samedi, il me semble, face à Brest à l'extérieur. Mais on l'avait vu à l'aller, équipe qui n'est pas facile à bouger, ce ne sera pas facile.
Bah déjà, on ne va pas oublier que c'est un mauvais souvenir pour l'OGC Nice, ce déplacement à Lorient, puisque ça c'était après ces débordements au retour.
Une certaine descente de supporters.
Voilà, exactement.
Un bon souvenir, hein.
Oui, exactement. Bon, après, c'est vrai que c'est une question de point de vue.
Point de vue, bien sûr.
Voilà. Mais oui, ce n'est pas facile. En fait, tout va se jouer sur ce que va faire Claude Puel de ce match. Est-ce qu'il veut le jouer à fond ou pas dès le démarrage? Est-ce qu'il va remettre des jeunes ou est-ce qu'il va attaquer rapidement avec des joueurs plus expérimentés? Mais ce sera pas simple, c'est sûr que je vois l'Orient.
Son fusil d'épaule là.
Moi je pense qu'il va attaquer fort.
Bah, là ça y est, il arrête de mettre les remplaçants.
On est en quart, voilà.
Il est là l'enjeu.
Mais oui.
John, le chemin le plus facile pour aller à l'Europe, parce qu'on a entendu les supporters crier on veut l'Europe à la fin de la rencontre face à Monaco, c'est quoi? C'est via la Coupe de France, où on sait qu'il y a quand même de gros morceaux qui sont toujours là, Lyon, Lens, Marseille, ou via le championnat, puisque il y a 7 points qui séparent l'OGC Nice de la 7e place qui serait potentiellement qualificative à la Conférence League.
Je pense qu'on a parlé plusieurs fois du coaching de Puel qui est un petit peu sur l'état d'esprit guerrier. Ça correspond bien au profil Coupe de France. Faut pas oublier non plus que Paris est sorti, que ça reste abordable sur un match des équipes comme Lorient notamment a un peu, je pense, fini un peu sa vague, parce que c'est pas le genre d'équipe qui peut garder un rythme comme ça sur toute une saison. Je pense qu'ils vont un peu s'affaiblir et ils vont pas savoir quoi mettre les efforts maintien ou Coupe de France, et ça peut être pour nous.
Nico.
Lorient, chez eux, c'est pas facile, hein. C'est une équipe qui a battu des grosses équipes, notamment à domicile, Lyon, Monaco,
oui,
je crois.
Bien sûr.
Monaco chez eux.
Donc c'est une équipe qui va être très très compliquée à jouer. Je pense que le Claude Puel va se servir du match contre Montpellier aussi pour revoir un petit peu sa vision des choses. Mais oui, évidemment que c'est le chemin le plus court vers une Coupe d'Europe. Après, est-ce qu'on peut parler de Coupe d'Europe à l'OGC Nice? Je sais pas.
Surtout pas à Claude Puel.
Il faut parler de titre, en
match après match. Hein,
c'est le match après match.
Je pense qu'on va aller au bout pour le titre, pas pour
la
Coupe d'Europe.
Très rapidement, avant de laisser place au Monégasque, un petit mot sur cette arrivée probable de Francaise au Stade Rennais. Ça vous inspire quoi?
Surprise.
C'est une évidence. On lui fait de bon courage. Enfin, moi, j'ai beaucoup de respect pour l'entraîneur, même si ça s'est pas bien fini.
Ça fait déjà 3 ans, 2 ans.
Je suis content pour lui. Je pense que c'est un club qui lui correspond. Lille est déjà passé, donc oui. Que le meilleur pour lui.
Avant de se quitter, on s'intéresse quand même au classement de cette Ligue 1, pour voir qu'il y a toujours un mano à mano entre le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Lens. Avantage PSG depuis 3 journées qui a en prime soigné sa différence de but. On retrouve le GC Nice dans la deuxième partie de tableau, la 14e place, une de moins que la semaine dernière avec 23 points, 9 de plus désormais qu'Auxerre, premier barragiste, et Nantes 17e pour une moins bonne différence de but. Vous le voyez, le GC Nice est 14e. Quelle va être la suite pour l'OGC Nice? On va s'y intéresser dans un instant avec le calendrier du gym à suivre. Le déplacement ultra compliqué, il faut bien le dire, à Lyon dimanche prochain, 20h45. Premier acte en l'espace de 2 semaines, on le disait, de la confrontation entre Niçois et l'Orienté dimanche 22 à 17h15. Ce sera terminé pour ce mois de février puisque la prochaine rencontre aura lieu à Jambouin face au Paris FC le 1er mars. Merci messieurs de m'avoir accompagné pour cette page OGC Nice. On se retrouve la semaine prochaine à 19h pour un Copéglon plus traditionnel, dirons-nous. On passe tout de suite au focus de l'AS Monaco. Moi je vous dis à la semaine prochaine.